La fin d'une conférence inédite au Vatican. Le pape a réuni pendant 4 jours toute la hiérarchie de l'Église, près de 200 évêques du monde entier, pour parler de ce fléau des abus pédophiles qui secoue le clergé depuis des années. Et alors que la hiérarchie catholique est accusée d'avoir fermé les yeux. Bonjour Emmanuel Gobillard.
Bonjour.
Vous êtes évêque auxiliaire de Lyon, vous êtes en direct de Roanne, dans la Loire. En clôture de cette conférence, le pape François a dénoncé hier une monstruosité. Il a même comparé ces crimes pédophiles à des sacrifices d'enfants qui étaient répandus par le passé dans certaines cultures, dans des rites païens. C'est la première fois qu'un pape a des mots aussi forts pour parler de la pédophilie.
Alors oui, bien sûr que ces mots sont très très forts. Ce qu'il a voulu dire, le pape, c'est le sommet dans l'horreur, voilà, dans l'abominable. Donc il a employé ces mots. Je dirais que ensuite ces mots, ça dépend un peu de la culture dans laquelle on l'emploie. Ils peuvent choquer certains. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que ce sommet était un sommet synodal. Alors c'est peut-être un terme un peu technique, mais ça veut dire que c'est l'une des plus grandes autorités dans l'Église. Cette grande réunion, elle engage et elle implique l'Église. Donc ce sommet, pour les catholiques, il est très très important et il aboutira sur un texte, voilà, qui sera aussi un texte, on dirait, pour action lorsqu'on fait une réunion.
Et il était nécessaire d'organiser un tel sommet pour que, au sein de l'Église, on se rende compte que la pédophilie, c'est le summum de l'horreur.
Alors, il était nécessaire de l'organiser, pour qu'on se rende compte peut-être de cela, mais surtout pour que on fasse un diagnostic au niveau de l'Église universelle. La façon dont on traite ces cas et dont on les accueille, dont on les reçoit, dont on les considère, n'est pas la même d'un pays à l'autre. Donc, il y a déjà un énorme travail de diagnostic qui a été fait avant, en amont de cette réunion. Et ensuite, il y a une confrontation entre les différents pays, entre les différentes conférences épiscopales, qui sont pas du tout égales. Il y en a qui sont très très en avance dans ce domaine, il y en a qui sont très très en retard.
Ça veut dire qu'il y a encore des coins dans le monde où des responsables religieux ferment les yeux, ne veulent pas voir. Bien sûr.
Il y a même des pays entiers où c'est pas possible encore de voir. Vous voyez, il y a certainement un aveuglement, bien sûr, dans certains pays.
Quel pays ?
Les pays d'Afrique et d'Asie en général n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse parler de d'abus sexuels ou de pédophilie dans leur propre pays. Ils ont facilement l'idée de que ça puisse se passer ailleurs, mais jamais chez eux. Alors, et c'est ça qu'on veut contrer.
Alors le pape a appelé à mener une bataille totale contre ce crime abominable. Ça veut dire qu'il va y avoir quoi ? Quelles sont les actions concrètes qui vont être prises ?
Alors déjà, cette réunion, elle a une valeur, on va dire, d'impulsion. Donc c'est-à-dire que les actions concrètes, le pape les annonce de manière assez générale. Ensuite, elles vont aboutir à des textes précis après cette réunion. Hein, je vous ai dit que c'était une assemblée synodale, donc on va attendre un texte de cette assemblée et des actions dans différents domaines. C'est-à-dire que déjà, Monseigneur Scicluna a exprimé le fait que, eh bien, effectivement, il y a des domaines dans lesquels on va travailler pour qu'il y ait des actions concrètes qui débouchent. Mais surtout, c'est aux évêques de chaque pays que le pape s'adresse. Le pape, j'allais dire, il est à Rome, il n'a pas de possibilité d'action dans chaque pays, hein, il a une possibilité d'impulsion. Et maintenant, c'est à nous de faire le travail.
Il peut pas donner une règle valable dans tous les pays du monde. Enfin, c'est quand même lui le patron, non ?
Si, il peut, mais cette règle aura toujours la valeur d'une généralité, voyez. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir agir directement dans nos lieux. Parfois, on attend un peu trop de la figure du pape. Ce qu'il faudrait, c'est attendre un peu plus des évêques locaux. Ce sont beaucoup plus eux qui peuvent agir. Ce sont eux qui peuvent dénoncer au procureur de la République. Ce sont eux qui peuvent faire la formation dans leur séminaire. Ce sont eux qui peuvent prendre la mesure de ce qui se passe dans leur diocèse. Voyez, donc en fait, les actions concrètes, elles doivent être impulsées au niveau de l'Église universelle, mais elles doivent être effectuées dans les différents diocèses.
Mais c'est sans doute ce fonctionnement, hein, que vous nous décrivez qui a entraîné la déception, hein, de nombreuses associations de victimes, hein, qui sont ressorties, enfin qui ont suivi de loin, hein, cette grande conférence de 4 jours et qui disent tout ça pour ça, au final des mots très durs mais rien de concret.
Oui, mais je comprends cette déception. La déception, c'est la déception face à une grosse machine quand même. Hein, c'est ce que je viens de vous dire. Voyez, maintenant, moi, j'ai vraiment l'intention de travailler directement avec eux, c'est-à-dire de les accueillir dans nos structures pour que ils soient présents dans nos actions. C'est-à-dire que, en tout cas, dans le diocèse de Lyon, je ferai tout pour que les associations de victimes soient partie prenante de nos actions. Voilà.
Oui, surtout que les associations ont pas mal de propositions à faire. Hein. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, mais ils aimeraient d'abord la base, c'est que les coupables soient traduits devant la justice des hommes et que ça ne reste pas en interne au sein de l'Église.
Bien sûr, bien sûr.
Ça, vous êtes d'accord?
Mais bien sûr, bien sûr. Pour vous dire, j'ai rendez-vous avec le procureur de la République dans 2 jours. Donc, pour le rencontrer, pour le connaître, pour que les liens soient plus faciles, et puis aussi pour lui parler de quelques cas.
Elle demande aussi, ces associations, le renvoi immédiat des agresseurs. Pour le moment, il y a quand même eu des milliers et des milliers de cas qui ont été signalés, notamment en Amérique latine, aux États-Unis, en Allemagne l'été dernier. Hein, toutes ces affaires sont, on en a beaucoup parlé. Un seul cardinal a été rendu à la vie laïque. Un seul. Comment ça se fait ?
Alors moi je suis choqué que ceux qui gardent le silence ne soient pas traduits dans la justice ecclésiastique, ce qu'on appelle directement. J'ai reçu aussi quelques victimes. Alors je vais vous donner un autre point de vue. J'ai reçu aussi quelques victimes qui sont très choquées à l'idée que les pédophiles eux-mêmes, lorsqu'ils sont prêtres, puissent être envoyés de l'état clérical. Parce qu'ils disent, nous voulons que ce soit un prêtre qui soit au procès. C'est un prêtre qui a abusé, c'est un prêtre qui doit être au procès, parce que si c'est pas un prêtre, c'est l'institution ne sera pas mise en cause. Mmh. Deuxième argument, nous voulons que ce prêtre soit toujours en lien avec l'Église catholique, parce que qu'est-ce qui va se passer s'il est renvoyé de l'état clérical ? On le laisse dans la nature, et les futures victimes éventuelles ? Au moins, il y a quelqu'un qui le surveille, au moins, il y a quelqu'un qui l'accompagne. Donc, la question de l'accompagnement reste quelque chose de très important parce que notre justice ne peut pas accompagner. Elle peut mettre en prison pour un temps, et avant, que se passe-t-il ? Et après, que se passe-t-il ? Donc, vous voyez, c'est quand même un sujet très complexe pour lequel les victimes elles-mêmes ne sont pas toutes d'accord. J'ai reçu des victimes qui étaient très choquées que Bernard Prenat, par exemple, ne soit pas renvoyé de l'état clérical, et d'autres qui ne supportaient pas l'idée qu'il le soit. Mmh. Donc il y a des arguments dans les deux sens. Je pense que le plus important, c'est de faire tout pour qu'il n'y ait plus de victimes. Voilà.
Emmanuel Gobillard, comment se fait-il que cette prise de conscience ait été si longue à venir ?
C'est une grosse machine. On était aveuglés. Il y a eu toute la question du cléricalisme. À un moment, le pape en parle dans son discours final. À partir du moment où on est seul pour exercer un pouvoir, à partir du moment où on se croit supérieur aux autres, on se croit tout puissant. Voilà. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que l'Église vive un vrai changement profond où on s'aperçoive qu'il n'y a pas de vocation supérieure à une autre, que les laïcs trouvent leur place, trouvent leur responsabilité, que l'Église puisse enfin retrouver un visage un peu plus, j'allais dire, pluriel. Et ça, c'est un gros changement nécessaire. Je pense qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est plutôt favorable. Avant, on était dans une situation un peu hypocrite, de mensonge, où il pouvait se passer des choses pour certains, des graves crimes pour certains, et puis personne n'en était conscient, personne ne pleurait, j'allais dire.
Mmh. Et le résultat, maintenant, c'est aussi une crise de confiance hein, chez vous. J'imagine que vous avez déjà entendu hein, ces prêtres qui sont à la fois accablés et qui disent qu'il y a un climat de suspicion permanent, qu'il y a même maintenant des parents qui hésitent à mettre leurs enfants au caté.
Oui, voilà, c'est sûr qu'il y a une crise de confiance. On n'est pas là pour défendre l'institution. Hein. Cette crise de confiance, si elle peut aboutir à une prise de conscience générale, à une vérité qui va se faire, moi je préfère une église blessée, une église souffrante, une église faible, qui n'a plus l'aura qu'elle devrait avoir sur la société, selon certains, une église faible qui soit vraie et qui soit humble, plutôt qu'une église triomphante. Donc, vous voyez, je préfère nettement d'être dans cette vérité, même si elle est très très douloureuse, que dans un mensonge anesthésiant.
Merci beaucoup Emmanuel Gobillard d'avoir été en direct sur France Inter. Je rappelle que vous êtes l'évêque auxiliaire de Lyon. Il est 6h29.